Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes devant lui pour écouter encore ce qu'il veut nous dire. Maître, parle, tes serviteurs écoutent. Voilà l'attitude que nous devrions toujours avoir. L'attitude du serviteur devant son maître. Maître, parle. C'est un maître débonnaire. Un maître patient, un maître plein de sagesse, un maître qui a un plan merveilleux pour chacune de nos vies, puisque c'est lui qui nous a créés. Il ne nous a point créés au hasard. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous sommes le produit d'une intelligence précise, nous sommes le produit de la création de Dieu lui-même. Dieu nous a créés pour un plan précis. Et c'est lorsque nous entrons dans ce plan que notre vie prend un sens réel, que nous commençons réellement à vivre,
Amen.
Non seulement nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais notre vie commence à être une bénédiction aux autres. Car une vie qui n'est pas une bénédiction aux autres n'est pas une vie. La vie divine est si merveilleuse que Dieu nous bénit pour nous rendre en bénédiction aux autres. Que son nom soit loué. Nous vivons des temps sérieux, mes amis. Et nous vivons un temps où le retour du Seigneur est plus proche que jamais. Le retour du Seigneur est plus proche que jamais, et nous devons nous préparer à ce prochain retour. Nous ne savons pas lorsqu'il reviendra, mais il a dit qu'il reviendrait, et que nous devons veiller. Et j'aimerais que le message de ce matin soit un message qui nous prépare au retour prochain de Jésus-Christ. Nous vivons, mes chers amis, la dernière période de la grâce divine. Et nous devons nous préparer à ce prochain retour. Bien sûr, nous ne savons pas le jour et l'heure. Mais nous vivons des temps prophétiques. Le Seigneur lui-même a dit, il a donné un signe très précis. Jérusalem sera foulé aux pieds des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Pendant des siècles, Jérusalem était foulée entre les pieds, dans les pieds des nations. Mais depuis 67, vous le savez, Jérusalem n'est plus entre les mains des nations. Jérusalem est retournée à Israël. Et c'est pourquoi, selon le plan de Dieu maintenant, le temps des nations est accompli. Ce qui veut dire que Dieu recommence. Il n'a pas abandonné, mais Dieu, avec précision maintenant, reprend des relations précises avec Israël, car Dieu veut encore utiliser Israël. Et après le retour, l'enlèvement de l'Église, c'est Israël qui sera chargé dans ce monde à être la lumière des nations. Et les nations accourront à Jérusalem pour connaître le vrai Dieu. Mais avant ces temps-là, l'Église doit se préparer, car Jésus, l'époux céleste, revient chercher son épouse. Et nous devons être prêts. Le temps des nations est accompli. Mais vous dites alors, mais pourquoi on est encore sur la terre? Dieu donne toujours un temps de grâce. Il dit que le temps est accompli. C'est pourquoi nous devons nous préparer maintenant. C'est vraiment le temps de la préparation. Nous ne devons pas nous joindre à la voix de ces moqueurs qui disent « Depuis le temps qu'on dit que Jésus va revenir, jamais il n'est revenu. Depuis longtemps, vous dites cela. » Et la Bible nous dit que Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Car devant lui, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et s'il tarde, c'est qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà pourquoi le Seigneur tarde, parce qu'il veut qu'encore un plus grand nombre soit sauvé. Il ne veut pas que les hommes périssent et subissent le jugement divin. Car après l'enlèvement de l'Église, il y aura des jugements très sérieux sur ce monde avant qu'Israël ait la responsabilité d'annoncer, d'être une lumière dans ce monde. Il y aura des jugements terribles qui vont venir dans ce monde. Ces jugements seront là pour punir tous ceux qui se sont moqués de Dieu, tous ceux qui n'ont pas fait cas de la grâce de Dieu. Un jour, il y aura un jugement et Dieu veut que nous échappions à ce jugement, que nous soyons comme des vierges sages qui attendent l'époux céleste. Nous devons veiller car les temps sont sérieux. La nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit du jugement vient sur ce monde qui pense que Dieu ne jugera point le monde. Ça fait des milliers d'années qu'on dit qu'il va venir. Mais ils oublient une chose, c'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Vous vous rendez compte? Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Autrement dit, si Jésus est mort il y a 2000 ans, devant Dieu, il est mort quand? Il y a 2 jours. Vous vous rendez compte? Si un jour est comme 1000 ans devant Dieu, autrement dit, pour le Seigneur, il est mort il y a 2 jours. Comment pouvez-vous dire qu'il tarde? Il ne tarde pas, ça fait 2 jours qu'il est mort. Voyez-vous, la notion du temps est très relative. Nous pensons que nous, le temps est long, est long, est long, que Dieu nous a oubliés. Pas du tout, mes amis. Il nous faut avoir la notion du temps divin et racheter le temps lorsque nous comprenons cela. Mais 1000 ans sont aussi comme un jour. C'est pourquoi nous devons veiller. Et comment nous préparer à ce retour du Seigneur? Comment nous préparer? Combien de fois la Bible nous dit que nous devons veiller et prier afin d'être... de rester debout, de nous trouver debout lorsqu'il reviendra, et que les ténèbres ne nous surprennent pas, car il reviendra comme un voleur dans la nuit, n'est-ce pas vrai? Il ne faut pas que ce jour nous surprenne, car nous sommes de la lumière, nous ne sommes pas des ténèbres, nous ne devons pas vivre comme ceux qui sont dans les ténèbres, et qui pensent que tout ira bien, et qu'il n'y aura pas de jugement. Le jugement vient dans ce monde. Mais l'Église doit se préparer à être enlevé et comment se préparer. C'est ce que je voudrais qu'on médite ensemble en vous donnant les sept préparations que Dieu nous demande pour avant son prochain retour. Nous devons nous préparer et c'est dans sept domaines que nous devons nous préparer. Et pour cela, nous allons prendre ensemble l'exemple des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Dans Exode chapitre 12, le récit de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte est très très intéressante. Et nous allons voir comment les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils devaient faire pour sortir d'Égypte? Et nous allons voir la fameuse nuit où ils devaient mettre du sang sur les poteaux, les linteaux, n'est-ce pas? Et que l'ange de la mort devait passer pour détruire les premiers-nés des Égyptiens. Cette nuit terrible a été la nuit de la délivrance des enfants d'Israël. Mais Moïse leur a donné des instructions précises. Et voici ce qu'il est dit. Nous allons lire, si vous le voulez bien. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. À partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie. Et les versets 8, 9, 10 et 11 vont être l'objet de notre méditation. Comment on devait manger cette Pâque? Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur. Et les jambes, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Soulignons bien cette pensée. Vous aurez les reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte. Voyez-vous, contre les dieux d'Égypte. L'Égypte était un pays rempli d'idoles. Ils se confiaient dans leurs dieux pour les protéger, les Égyptiens. Ils disaient, vous ne pouvez pas bien faire ce que vous voulez. Nos dieux nous protégeront. Et Dieu dit, j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Et vous verrez que ces dieux ne sont rien du tout. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Le mot « Pâques » veut dire littéralement « action de passer par-dessus ». Le jugement de Dieu est là, mais à cause du sang versé, le jugement de Dieu ne vient pas. Dieu passe par-dessus et ne donne pas le jugement à ceux qui ont immolé un agneau et qui sont protégés par le sang. Alors maintenant, ce récit est très significatif pour nous. Vous le remarquez, il devait manger cette Pâque à la hâte, n'est-ce pas? Ils ne savaient pas à quel moment ils allaient partir. Ça faisait 430 ans qu'ils étaient esclaves en Égypte. 430 ans, esclaves, dans la douleur, la souffrance, dominés, abusés par les Égyptiens. Mais Dieu a vu leur souffrance. Et au bout de 430 ans, Dieu amène la délivrance. Et il leur dit comment ils devaient se préparer pour ce jour-là. Comment ils devaient sortir. Dans quel esprit ils devaient le faire. Qu'est-ce qui allait les délivrer. Nous allons donc voir cette chose importante qui sont comme les sept préparations qu'ils ont dû faire pour pouvoir sortir d'Égypte. Et vous savez, cette sortie d'Égypte, c'est aussi un peu l'image de notre libération de ce monde. Un jour, le Seigneur va venir nous chercher, nous sortir de ce monde qui est le symbole de l'Égypte, nous délivrer de Pharaon qui est le symbole du démon, du diable. Il va venir nous chercher. Il l'a dit. Mais comment nous devons nous préparer? Ce récit-là nous en donne l'explication. Alors nous allons voir sept vérités importantes qui vont nous montrer comment nous devons nous préparer. Et vous allez voir, ces vérités partent de la croix au retour du Seigneur. Premièrement, première préparation, c'est qu'il devait offrir ou manger et manger un agneau rôti au feu. Et il devait bien sûr verser le sang de cet agneau et le placer sur les poteaux et les linteaux de leur maison. Ici, cet agneau rôti au feu, et comme nous l'avons lu un peu plus haut aussi, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Qui est cet agneau? Nous le savons tous. Cet agneau sans défaut et sans tache, comme nous dit l'apôtre Pierre, c'est le Seigneur Jésus. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est dit que Jésus est notre Pâque qui a été immolé. Il est lui, l'agneau, qui a été immolé. Donc ici, ce sacrifice de l'agneau, ces multitudes d'agneaux qui ont été sacrifiés, préfigurent le sacrifice parfait de Jésus, qui un jour allait venir pour nous délivrer de la main de Satan, nous délivrer de nos péchés, nous délivrer de la perdition éternelle, et nous donner la vie éternelle. Amen. Il devait se nourrir de cet agneau qui devait être rôti au feu. Pourquoi rôti au feu? Et pas seulement bouilli. Rôti au feu, il y a là l'image des souffrances de Jésus. Quand on rôtit de la viande au feu, il y a de la souffrance, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de qui fait souffrir. Et il est question ici des souffrances de Jésus, de la mort de Jésus à la croix. Ce sera un agneau rôti au feu. Et le Seigneur veut nous dire ceci. Il veut nous dire ceci, c'est que si nous voulons être prêts lorsqu'il reviendra, nous devons nous nourrir de cet agneau rôti au feu. Nous devons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Nous devons réaliser que c'est à cause de ses souffrances, de son sacrifice, que nous pouvons être délivrés de la main de Satan, être purifiés de tous nos péchés. Amen. Jamais nous ne verrons la face du Seigneur si nous ne venons pas au pied de la croix pour réaliser qu'il était lui, l'agneau, sans défaut et sans tache. Il est venu une première fois comme celui qui a donné sa vie pour des pécheurs. Il était le Fils de Dieu parfait, sans défaut. La Bible dit, c'est Pierre qui nous dit, 1 Pierre 3,18, Christ a souffert une fois pour nos péchés, lui le juste pour nous, injuste, afin de nous amener à Dieu. L'apôtre appuie ici sur les souffrances. Christ a souffert pour nos péchés. C'est l'agneau qui est rôti au feu. Ce sont là les souffrances que Jésus a dû endurer pour nous pardonner, pour nous sauver et pour nous délivrer de l'enfer éternel. Mes amis, si nous voulons être prêts pour son prochain retour, nous devons réaliser à quel prix nous avons été rachetés. Amen. Nous devons réaliser cela. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas d'où le Seigneur les a sortis. D'où le Seigneur les a sortis. Ils ne réalisent pas qu'ils étaient esclaves du diable et perdus pour l'éternité, ayant la colère de Dieu sur eux à cause de leurs péchés. Tu es sauvé? Oui, je suis sauvé, gloire à Dieu, alléluia. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ah ben ça va, il m'a pardonné, alléluia, terminé. On ne réalise pas. Quelqu'un qui ne réalise pas la grandeur de son péché, la noirceur de son péché et le châtiment qui était sur lui à cause de son péché, vivra une vie chrétienne très superficielle. Une vie chrétienne très superficielle. C'est pourquoi nous devons réaliser qu'il a souffert pour nous, que nous avons offensé Dieu, que nous étions séparés de Dieu. Et qu'il a fallu le sacrifice et les souffrances de Jésus. Il a fallu que son sang coule. Il a fallu qu'il se donne entièrement. Lorsqu'on regarde Jésus à la croix, il était littéralement couvert de sang. Déjà avant d'aller à la croix, on l'avait flagellé. 40 coups moins un. Déjà son dos était lacéré de coups. La chair avait déjà était déjà brisée, coupée. Tout son corps déjà était couvert de sang. On lui avait mis cette épine aussi. Ce n'était pas des petites épines comme cela. C'était des épines qui étaient comme cela. Quand on lui avait mis cela sur la tête, tout son crâne était déjà percé par ces épines. Le sang coulait de partout. Lorsqu'on regardait Jésus, ce n'est pas toujours ce qu'on voit sur les images aujourd'hui. La Bible dit, lorsqu'on regardait Jésus dans Ésaïe 53, qu'il était défiguré, qu'il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Qui l'a reconnu? On ne le reconnaissait plus. Il était rôti au feu du jugement de Dieu. Il portait ton jugement et mon jugement. Ésaïe 53, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer notre regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. tout Ésaïe 53, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons détourné. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Les gens ont pensé que s'il mourait sur la croix, c'était parce qu'il avait fait le mal, qu'il était un imposteur, qu'il était un malfaiteur. Ceux qui étaient autour de la croix ne comprenaient pas que c'était à cause d'eux que Jésus mourait. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Parce qu'il était celui qui venait pour porter le péché des hommes, le châtiment des hommes. Mes amis, comment nous préparer pour le retour prochain du Seigneur? Nous devons considérer l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Nous devons considérer par où il est passé pour nous sauver. Combien notre situation était grave devant Dieu. Combien notre péché était grave. Combien nous avons offensé Dieu. Combien notre esclavage était profond. Lorsque nous comprenons cela, alors nous apprécions les souffrances de Jésus à sa juste valeur. Amen. Oh merci Seigneur. C'est moi qui t'ai fait souffrir. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. C'est toi qui l'as fait souffrir. C'est moi qui l'as fait souffrir. Ce sont mes péchés, mes rébellions, ma souillure, ma haine, mon égoïsme, ma rébellion qui ont fait souffrir le Seigneur. Et il a fallu Jésus, l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tâche. Il a fallu le juste pour mourir à la place des injustes. Il a fallu que lui, le pur, meure pour des impurs. Il a fallu que lui, le Fils de Dieu, meure pour nous, pécheurs. Mes amis, c'est pourquoi nous prenons le pain et le vin. C'est pour nous rappeler les souffrances de Jésus. Non pas que Jésus souffre encore maintenant, non, c'est fini. Il a souffert une fois. Il n'a plus à souffrir maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Il a souffert une fois. Il n'a pas continué de souffrir comme pour dire « ses souffrances ne sont pas efficaces ». Il a souffert une fois comme pour dire « j'ai souffert une fois définitivement et parfaitement ». Mais vous, nous devons nous rappeler de cela, de tout ce qu'il a fait pour nous. Car la Bible dit bien aussi que nous devons nous rappeler quand nous prenons le pain et le vin, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il viennent. Voyez-vous, les deux sont là. Sa première venue en tant qu'agneau de Dieu et sa seconde venue en tant que roi de gloire. Et dans le passage que nous lisons ici, il y a ces deux choses. Il est d'abord l'agneau rôti au feu. C'est sa mort sur la croix, ses souffrances. Et ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'il est dit? Vous la mangerez en hâte. Et c'est le retour du Seigneur. Il revient bientôt. Je reviens bientôt. Et entre ces deux-là, entre sa mort et son retour, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a donc plusieurs choses. Mais nous devons nous nourrir. Voyez-vous, il devait manger cet agneau rôti au feu, n'est-ce pas vrai? Comme pour dire, il faut que ce sacrifice fasse partie intégrante de votre vie. Il faut que vous en compreniez le sens. Il faut que vraiment ce soit votre nourriture continuelle. Jésus, l'agneau qui est mort à ma place. Nous avons besoin de nous nourrir continuellement de cette vérité. Amen. C'est lui qui nous donne la vie, la force de vivre, la force pour marcher aussi. Nous devons continuellement nous rappeler de cela. Rappeler d'où l'Éternel nous a sortis afin que nos vies le glorifient. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. C'est ta sainte croix, divin sauveur. Alléluia. C'est pourquoi nous devons saisir pleinement le sens de cette croix. Nous en nourrir continuellement. Merci Seigneur, tu es ma nourriture. Ta mort me donne la vie. Alléluia. C'est sa mort qui nous donne la vie. Gloire au Seigneur. Voyons maintenant une deuxième préparation. Il devait se nourrir d'un agneau rôti au feu, mais il devait aussi se nourrir d'autre chose. L'agneau, c'était la première chose. Essentiel, indispensable, sans lequel ils ne pouvaient être sauvés. Mais maintenant qu'ils sont sauvés, que le sang a été placé sur les poteaux, les linteaux de leur maison, et pour nous, sur les poteaux, les linteaux de notre cœur, où nous en avons fait l'application personnelle, croire que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde n'est pas suffisant. Il faut se l'appliquer personnellement. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je crois que Jésus est mort ». Pour les péchés du monde, ce n'est pas suffisant. Tu peux croire que Jésus est mort pour les péchés du monde et être perdu. Tu dois l'appliquer. Tu dois te l'appliquer personnellement. Chaque Israélite devait sacrifier un agneau et appliquer le sang sur les poteaux, les linteaux. Il devait y avoir une application personnelle. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché n'est pas suffisant. J'accepte personnellement que seul son sacrifice et ses souffrances m'ont délivré du péché, de la mort et de l'enfer éternel et de la main du diable. Alléluia. Une application personnelle. Jésus est mon sauveur personnel. Alléluia. Maintenant que nous sommes à lui, après, qu'est-ce qu'il est dit? Il devait prendre du pain sans levain. La deuxième préparation, c'était qu'il devait prendre du pain sans levain. Le pain sans levain. Et le levain, dans la parole de Dieu, est toujours le symbole du péché. Donc, prendre du pain sans levain, quel est le message pour nous? Qu'est-ce que cela préfigure? Le pain sans levain préfigure une vie de sainteté. Une fois que nous sommes sauvés, Dieu veut qu'on lui appartienne entièrement et qu'on vive loin du péché. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8. 1 Corinthiens 5, 8. Voici ce qu'il est dit. 1 Corinthiens 5, 8. Déjà au verset 6, il est dit, « C'est à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Puisque vous êtes sans levain, vous êtes pardonné de vos péchés, vous êtes purifié de vos péchés. Par quoi? Car Christ, votre Pâque, a été immolé à cause du sang versé. Le sang, le péché maintenant est purifié de notre cœur. Une fois que le péché est ôté, maintenant nous devons le haïr. Nous ne devons plus caresser le péché. Et il est dit ici, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec... Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. De la pureté et de la vérité. Désormais, nos vies doivent être des vies qui doivent marcher dans la lumière et dans la vérité. La preuve que quelqu'un est authentiquement chrétien, c'est que maintenant, il fuit le péché. Il est le péché. Et si par erreur, par mégarde, il commet une faute, il il est mal à l'aise. Il ne se sent pas bien. Que quelqu'un me dise qu'il est chrétien et que quand il commet un péché, ça ne lui fait rien du tout. Cette personne prouve par là qu'elle n'est pas une chrétienne. Maintenant que Christ est venu dans ta vie, maintenant que tu as compris que ce sont tes péchés qui ont fait souffrir le Maître, alors ta seule attitude à l'égard du péché, c'est la haine. C'est le rejet du péché. Et quand tu fais une faute, alors ta première réaction, « Oh Seigneur, pardonne-moi, je ne peux pas rester avec cette pensée, ce péché, je te demande tout de suite pardon. » Vous savez, quand on n'était pas chrétien, le péché était une habitude. Tandis que lorsque nous sommes devenus chrétiens, le péché devient un accident. C'est un accident, ce n'est plus une habitude. Si nous continuons de pécher habituellement, comme d'habitude, qu'est-ce que nous prouvons ? Nous prouvons que nous ne sommes pas chrétiens. Mais l'apôtre Jean dit, si quelqu'un a péché, en parlant des chrétiens, si. Non pas quand il pêche, comme si c'était une habitude, quand vous péchez, comme pour dire, vous continuez votre habitude de pécher, alors nous avons un avocat et il peut vous, et cet avocat vous défendra. Non, non, non. Dans l'épître de Jean, il est dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si, c'est un accident. Dans la vie du chrétien, le péché devient un accident. Ce n'est plus une habitude. Et lorsque nous avons fait, nous avons dit une mauvaise parole, nous avons fait un mauvais geste qui a déplu à Dieu ou qui a fait du mal à notre prochain, le Saint-Esprit qui est en nous maintenant ne peut pas rester tranquille. Le Saint-Esprit nous dit, mon enfant, tu as mal agi. Tu as mal agi. Demande pardon. Et le sang de Jésus te purifiera. Le Saint-Esprit qui est en nous nous reprend. Mais si nous faisons quelque chose de mal et que nous ne sommes pas repris, c'est la preuve que nous ne sommes pas chrétiens, que nous ne sommes pas nés de nouveau, que le Saint-Esprit n'habite pas en nous. Nous ne pouvons pas être chrétiens et continuer de pécher comme avant. Vous comprenez bien cela ? Ce n'est pas possible. Lorsque nous étions inconvertis, le péché était une habitude. Mais maintenant, c'est un accident. C'est involontairement. Autrefois, nous péchions volontairement. Mais maintenant, nous péchons involontairement. Et lorsque ça nous arrive, parce que ça arrive aussi aux chrétiens, il faut tout de suite venir près du Seigneur. Si nous confessons nos péchés, si encore une fois, pas quand, si, donc par erreur, par accident, si ça t'arrive, viens, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 7, 8, 9, tout cela, ce sont des passages très importants pour les chrétiens. Nous devons manger maintenant du pain sans levain. C'est une vie de sainteté. Désormais, nous devons haïr le péché. Le levain, c'est le péché. Nous devons marcher dans la pureté et dans la vérité. Plus dans le mensonge. Plus dans le mensonge à l'égard de Dieu et à l'égard des autres. Dans la vérité. C'est-à-dire, lorsque j'ai péché, c'est tout. L'apôtre David disait, tant que je me suis tué, lui qui avait commis l'adultère, il a dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient en moi. Mais j'ai dit, j'avouerai mon péché à l'Éternel. Et il a effacé mes transgressions, ma peine. Mais tant que je me suis tué, mes os se consumaient en moi. Il faut être dans la vérité avec Dieu. Tu as péché, viens à la lumière. Il te pardonnera si tu veux vraiment confesser et abandonner. Amen. Alléluia. Les pains sans levain, c'est cela, mes amis. Deuxième préparation. C'est une vie de sainteté. Dieu nous appelle à cela. À vivre dans la pureté et dans la vérité. Et devant Dieu et devant les hommes. C'est cela le pain sans levain. Troisièmement, qu'est-ce qu'il devait manger encore ? Des herbes amères. Au verset 8, il est dit qu'il devait manger donc des herbes, du pain sans levain avec quoi ? Des herbes amères. Et les herbes amères ici, c'est quoi ? C'est la repentance, l'amertume. C'est la repentance. C'est réaliser que nous avons continuellement besoin de manger cette herbe amère. Lorsque nous avons déshonoré le Seigneur, nous devons nous repentir sincèrement. Amen. Sincèrement. Et ne pas prendre l'habitude de vivre avec des choses qui déplaisent à Dieu. Bien souvent, mes amis, Le problème est là avec beaucoup de chrétiens. Ils ne s'en sortent pas avec certains péchés ou certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se repentent pas sincèrement de leurs péchés. Confesser son péché n'est pas suffisant. Il faut aussi l'abandonner. Amen. Et quand on commence à haïr son péché, la délivrance est là. Ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un s'il n'est pas prêt à se repentir de son péché. Vous comprenez ? Ça ne sert à rien. Et sentimentalement, on peut essayer de prier même pour quelqu'un. Mais si cette personne ne s'est pas vraiment repentie, ça ne sert à rien du tout. La personne sera toujours là. Elle ne sera pas délivrée. Donc la clé de la délivrance dans notre vie chrétienne, pour vivre une vie chrétienne victorieuse, c'est une vraie repentance. Lorsqu'on a fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, Seigneur, je te demande pardon et j'abandonne. Et je hais mon péché. Alléluia. Je le hais. C'est ce que Dieu veut. C'est ça, les herbes amères. C'était pas très bon à manger, hein? Les herbes amères. C'est comme certains médicaments, quand on les prend, ça vous fait presque vomir. Mais non, prends-les, ça te fait du bien. C'est pas bon, mais prends-les, après ça te fera du bien. Mais sur le moment, c'est pas bon. C'est comme cela avec le Seigneur. Avec le monde, c'est l'inverse. Avec le Seigneur, ça commence avec l'amertume, la repentance, les larmes. Et ça finit avec des chants d'allégresse. Alléluia. Alléluia. Mais avec le monde, c'est d'abord la joie, la bamboula. Allez, allons-y. Continuons, tu vas très bien. Mais les herbes amères viendront à la fin. Le jugement, la colère de Dieu vient. Dans le monde, c'est amuse-toi. Fais ce que tu as envie. Mais ils ne savent pas que le jugement viendra. Avec le Seigneur, c'est l'inverse. Repends-toi. Ça commence dans les larmes avec le Seigneur. Mais ça finit avec des transports d'allégresse. Alléluia. Et pourquoi certains n'arrivent pas à entrer dans ces transports d'allégresse ? Parce qu'ils ne se repentent pas sérieusement et sincèrement de leur péché. Ils le caressent encore. Des herbes amères. Je te confesse, Seigneur. Mais je hais, je l'abandonne, mon péché. Je ne veux plus le voir. Je hais ce péché. Comme je l'ai dit, le péché, c'est comme un serpent qui est dans la maison. Est-ce que vous pouvez dormir avec un serpent à la maison ? Est-ce que vous pouvez dormir ? Personne. Jusqu'à ce qu'il soit tué. C'est ainsi avec le péché. Vous ne pouvez pas le garder dans la maison. Prendre le bâton de la croix. Vous prenez ce bâton. À la croix, Satan t'a vaincu. Jésus est mort parce qu'il haïssait le péché. Mon péché. Et maintenant, tu dois vivre pour haïr ton péché. Et vivre une vie nouvelle. Amen. Les herbes amères, c'est ça. Et c'est pourquoi chaque fois qu'il nous arrive de faire quelque chose qui déshonore Dieu, nous devons nous en repentir sincèrement. Sincèrement. Et l'abandonner. Non pas dire et recommencer, mais l'abandonner. Pour que vivre une vie chrétienne victorieuse. Amen. Quatrièmement, les reins saints. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 11 ? Au verset 11, il est dit, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints. » Verset 11. Quatrième préparation, les reins saints. Qu'est-ce que les reins saints ici ? Vous savez que dans le temps, les Israélites, et même du temps du Seigneur, les hommes avaient des robes, c'est pas vrai ? Ils avaient des robes. Et alors, si quelqu'un devait courir, est-ce qu'on peut courir avec une grande robe comme cela ? Impossible ! Si vous voulez courir avec une grande robe comme ça, et que la robe soit, ça va dans tous les sens, vous allez vous casser la figure. Vous allez vous casser la figure. Les pans de la robe vont rentrer ici, la première. Alors, le Seigneur voulait leur dire, si tu veux courir, tu dois avoir les reins saints. Et Luc 12, 35, le Seigneur nous parle de cela. Qu'est-ce qu'il dit ? Luc 12, 35, en justement parlant de son retour, Luc 12, 35, que vos reins soient saints et vos lampes allumées et soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître. Voyez-vous, le retour, 12, 35, qui attendent leur maître des noces, qui reviennent des noces, afin de lui ouvrir lorsqu'il arrivera et frappera. Alors ici, qu'est-ce que ces reins saints ? C'est la ceinture que nous devons mettre autour de nous. Autrement dit, c'est la maîtrise de soi. et de ses habitudes. La maîtrise de son corps. Le chrétien doit savoir se maîtriser. Pas seulement confesser, recommencer, mais arriver à une maîtrise de soi. Maîtrise dans son regard. Certains d'entre vous, vous avez votre problème, votre faiblesse, c'était peut-être le regard dans votre vie passée. Vous devez veiller à cela. Vous devez veiller à votre regard parce que c'est par là que vous avez beaucoup péché. Moi, je sais par où j'ai péché. Par mes pensées, je péchais beaucoup. Et je dois veiller à mes pensées. Je dois mettre une ceinture autour de mes pensées. Et ne pas laisser divaguer mes pensées. D'autres, c'est le regard. Qui pêchent par leur regard. Vous devez mettre une ceinture autour de votre regard. Quelqu'un dit un jour, ce n'est pas le premier regard qui est un péché. C'est le second. Ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai quand David aussi, quand il a vu Bathsheba, quand il a vu cette femme qui était en train de se laver là-bas, bon, malencontreusement, il a pu la voir, c'est pas de sa faute. Mais si c'était détourné, et dire, oh Seigneur, pardonne-moi, là, je ne l'ai pas fait exprès. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Ah. Il a commencé à ruminer quelque chose en lui. Et au lieu de s'en détourner et de fuir, c'était le deuxième regard qui devenait un péché. Là, le péché était conçu en lui. Et finalement, ce péché conçu l'a amené à l'acte. Et à toutes ses souffrances, le regard. Vos reins sains, vous devez veiller, mes amis. Vous savez dans quel domaine vous êtes faible. L'autre, c'est peut-être les paroles à tort et à travers, des paroles injurieuses qui sortent de ta bouche. Une fois chrétien, tu dois te contrôler. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Telle parle légèrement et blesse comme un glaive. Même des chrétiens peuvent avoir une parole, une langue, une bouche qui fasse du mal. Les proverbes disent, telle parle légèrement et blesse comme un glaive. Mais la langue du sage apporte la guérison. Amen. La langue du sage apporte la guérison. Vous devez veiller. Si c'est dans le regard, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos gestes, vous devez veiller. Vous devez, c'est cela, avoir les reins sains. Vous devez vous contrôler, vous maîtriser. Pas laisser aller comme ça. Oui, la robe est là. On court. Quand vous voyez courir quelqu'un, vous voyez nettement que c'est une personne qui n'a pas de discipline, qui se laisse aller. Et puis la première chose, pouf, on se casse le nez, c'est terminé. Mais tandis que celui qui a la ceinture, ah, vous dites, celui-là, il est discipliné. Celui-là, il a le contrôle de soi. Il contrôle ses gestes, ses pensées. Il contrôle tout. C'est cela. Ayez vos reins. Saint, savoir se discipliner. Amen. Très important, mes amis. Et pas seulement toujours confesser, recommencer. Dieu veut qu'on arrive à cette maîtrise par son esprit. Cinquièmement, il fallait, au verset 11, il fallait qu'ils aient des souliers aux pieds. Cinquième préparation, des souliers aux pieds. Et qu'est-ce que cela préfigure pour nous? Éphésiens 6, 15. C'est le témoignage chrétien. Ayez à vos pieds, les choses à vos... Comment c'est déjà le verset? Éphésiens 6, 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça, c'est le témoignage chrétien. Les souliers aux pieds, c'est le témoignage. Un chrétien, en attendant le retour du Seigneur, doit parler du Seigneur, doit témoigner. C'est comme cela que vous maintiendrez votre flamme. Un chrétien qui ne témoigne pas, qui n'a pas la passion des âmes, qui est là, moi je suis sauvé, c'est terminé, tant pis pour les autres. Mon ami, tu vas perdre ta flamme. Il n'y a rien de tel pour garder le feu de l'esprit en toi, le feu de l'amour de Dieu, le feu du pardon, le feu de la vérité qu'en témoignant. Et des chaussures à tes pieds. Si tu ne peux pas courir dans le désert avec sans chaussures, tu es d'accord avec moi? Les serpents, les scorpions seront là. Tu ne pourras pas t'en sortir, c'est impossible. Ayez à vos reins la ceinture. Ensuite, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle. Soyons zélés. Si tu es zélé pour sauver des âmes, mon ami, tu seras prêt pour le retour du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Sois zélé pour cela. Amen. Sois zélé. Le zèle. que chacun d'entre nous, nous ayons la passion des âmes. C'est pas seulement le travail du pasteur, de l'évangéliste ou du missionnaire. Chacun d'entre nous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mes témoins, vous avez reçu le Saint-Esprit pour être ses témoins. Alléluia. Et si vous êtes engagé dans le témoignage, eh bien, vous serez prêt pour le retour du Seigneur. Alléluia. Dieu vous gardera. Amen. Mettez des chaussures à vos pieds, mes amis. Ne partez pas sans souliers. Vous allez vous faire mordre, piquer. Vous allez vous faire mal. Vous ne pouvez pas. C'est impossible sans souliers. Sixièmement, bâton à la main. Le bâton à la main, qu'est-ce que c'est que ça? Sixième préparation avec un bâton. Le bâton à la main, c'est être pèlerin et voyageur sur la terre. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Dieu veut nous dire que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Sur cette terre. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises. Comme des quoi? Comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Le bâton, c'est cela. On n'est pas fait pour vivre pour ce monde. Amen. Notre cité à nous est dans le ciel, mes amis. Alléluia. Ne mettez pas votre cœur. Là où sera votre trésor, là sera votre cœur. Que tout votre trésor soit pour là-haut. Alléluia. Le jugement vient dans ce monde, mes amis. N'y mettez pas votre cœur. Nous sommes des pèlerins, des gitans. Alléluia. Nous sommes des voyageurs. On n'est pas pour vivre éternellement ici. Notre cité à nous est dans le ciel. Et je termine. Nous devons manger à la hâte. Septièmement, manger à la hâte, c'est le retour du Seigneur. Le retour imminent du Seigneur. Apocalypse 22, 20. Le Seigneur vient bientôt. Celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt, je viens promptement. Jésus revient bientôt, mes amis. Amen. Alléluia. Ne mettons pas nos cœurs dans tout ce que nous avons ici-bas. Nous pouvons avoir des maisons, mais n'y mettons pas notre cœur. Nous pouvons avoir une voiture, mais n'y mettons pas notre cœur. Nous pouvons avoir des biens ici-bas, mais ne mettons pas notre cœur. Amen. Que ce ne soit pas là le but de notre vie. Amen. Alléluia. Nous devons manger pour vivre, mais nous ne devons jamais vivre pour manger. Ça, c'est très important. Alléluia. Et 1 Jean chapitre 3, verset 3, il est dit que celui qui a cette espérance du retour du Seigneur se purifie lui-même comme lui-même est pur, comme Jésus est pur. Donc ce retour du Seigneur doit constamment nous conduire à nous purifier de toute souillure, de la chair et de l'esprit, et de nous donner entièrement au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si notre cœur n'est pas attaché aux choses d'ici-bas, si notre cœur est pour sauver des âmes, si nous haïssons le péché, si Jésus, le Sauveur, est notre nourriture continuelle, alléluia, notre cœur ne sera pas attaché aux choses d'ici-bas. Et nous l'attendrons avec persévérance. Il l'attend. Chaque jour, nous devons l'attendre. Chaque jour, il n'est pas venu aujourd'hui. C'est parce qu'il veut que tu vives près de lui et que tu sauves d'autres âmes. Amen. Amen. Chaque matin, nous devons dire, nous devons être prêts chaque jour. Chaque jour, s'il venait aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt? Est-ce que ta maison est en ordre? Est-ce que ta vie personnelle est en ordre? Est-ce que tu es en ordre? Mets ta vie en ordre chaque jour. Alléluia. Chaque jour, tu dois être prêt. Chaque jour. Parce que tu ne connais pas le jour de sa venue. Chaque jour, mets ta vie en ordre. Chaque jour, engage-toi pour le Seigneur. Chaque jour, fais sa volonté. Chaque jour, nourris-toi de Jésus, le Sauveur. Alléluia. Il t'a délivré de la mort éternelle. Réjouis-toi pour te faire entrer dans son ciel de gloire. Alléluia, il revient bientôt. Soyons prêts, mes amis, que son nom soit béni. Amen.